à voix nue. Toute cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Étienne Dao. Ce soir, Paris, Londres, Rome.
Étienne Dao, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chanteur, auteur, interprète. On a évoqué ces jours précédents votre enfance à Oran, puis la jeunesse à Rennes, où vous faites vos débuts sur scène. J'aimerais ce soir évoquer les différentes destinations qui font sans doute partie de ce qu'on appelle un destin, qui vont marquer votre parcours, c'est à savoir Londres, Manchester, Paris, New York et peut-être Ibiza aussi, où vous avez beaucoup écrit. Quand vous quittez Rennes en 1983 pour Paris, où est-ce que vous allez d'abord et qu'est-ce que vous laissez derrière vous, Étienne Dao ?
D'abord, je suis venu habiter un petit peu à Paris avant et on n'avait pas les moyens de payer le loyer. Donc on est retourné à Rennes. C'est un appartement que j'avais avec Franck Darcel et Arnold Turboust. Et c'était chez son cousin Eric Lelanne, qui est le trompettiste de jazz. Et donc on a vécu là, un rez-de-chaussée, un peu entassé les uns sur les autres. Et on était un peu contraints de retourner à Rennes. Et donc à Rennes a commencé une vie de l'après effervescence de la scène rennaise. On est rentré dans un système de vraiment de trucs de pochetron quoi. Et il y a eu un jour, je me suis dit c'est pas possible, c'est fini quoi. Je veux pas vivre comme ça. Et je suis parti. Voilà. À Paris.
L'appartement dans lequel vous nous recevez, vous n'y emménagez pas tout de suite. Et est-ce que vous choisissez le quartier ? Parce qu'on n'est pas très loin du cimetière de Montmartre.
En fait, mes grands-parents étant Place Blanche, j'avais deux de mes tantes qui avaient un établissement en face du Moulin Rouge, qui s'appelait le French Cancan, qui était une brasserie, qui ouvrait de jour et de nuit. Ce qui fait que j'étais un peu en contact avec le monde de la musique, puisqu'il y avait plein de musiciens qui venaient. Je récupérais tous les disques du jukebox tout le temps, donc j'avais des tonnes de 45 tours chez moi, donc c'était vraiment extraordinaire pour moi. Et puis la locomotive était en face, donc il y avait plein d'artistes qui jouaient. Je me souviens, j'avais eu un autographe de Chuck Berry par exemple, des choses comme ça. Donc au-delà de l'amour de la musique, il y avait ce monde qui me fascinait. Et puis donc j'ai vécu dans le 9e, enfin Place Pigalle d'ailleurs, cet appartement avec Darcel et Turboust. Et puis après j'ai un peu zoné, mais j'avais plein de fiancés donc ça allait. Et puis un jour il y a eu cette maison qui était à visiter, c'était mon manager de l'époque qui avait vu ça et qui voulait que je place mon argent quelque part. J'avais évidemment pas du tout les moyens de m'acheter un endroit comme ça, mais ça coûtait pas cher du tout. C'était surtout un grand espace et donc je l'ai acheté en 87. J'ai essayé de partir plein de fois, mais c'est comme si la maison me retenait, c'est très étrange. C'est une bonne maison, c'est une maison qui enveloppe vraiment. Et puis je peux faire plein de choses ici, j'ai enregistré des disques. J'ai enregistré l'invitation, une partie de l'invitation. J'ai enregistré le condamné à mort. Comme il y a plein de différences de niveau de plafond, il y a beaucoup de bois, ça sonne très bien. Il y a un très bon son. Puis je peux faire des fêtes aussi, un peu moins parce que j'ai fait des travaux maintenant, donc c'est un peu clean. Mais pendant des années, il y avait 150 personnes qui rentraient ici. C'était vraiment une zone pas possible, mais c'était très très joyeux, quoi.
Vous évoquiez la loco, Étienne Dao. Je crois que, en fait, c'est là que vous avez enregistré votre premier disque.
Ah oui, c'est vrai. À l'époque, il y avait ces machines qui étaient comme des photomatons et on mettait une pièce de 5 francs. Je crois qu'on voit ça dans Masculin-Féminin de Godard. À un moment donné, on voit cette chose-là, on voit cette machine. Et donc, on enregistrait et il y avait un disque qui sortait. Et donc, on avait un vinyle très épais, comme ça, que j'ai gardé pendant des années. Je sais même plus où il est. Je pense que ma mère doit l'avoir parce que c'était pour la fête des mères. Et j'avais enregistré une chanson d'Hugo Frey, parce qu'évidemment, en tant que petit scout, on chantait que Hugo Frey, chante Dylan. Donc, donc voilà, c'était une chanson qui s'appelle « Tout le long du chemin, donne-moi la main », tout ça et tout. Enfin, bon. C'est la première voix enregistrée. Et j'avais réécouté il y a une vingtaine d'années. J'étais retombé dessus et j'ai la même voix, en fait, mais en petit.
Vous parlez de votre voix, Étienne Dao. Comment votre entourage a réagi les premières fois que vous leur avez fait entendre votre voix chantée ? Parce que on a souvent pu vous caractériser comme un chanteur qui ne force pas, à la voix basse, très douce et très singulière finalement dans le paysage français.
Surtout quand j'ai commencé. C'était, j'ai un peu essuyé les plâtres. Déjà, la musique que je faisais, ça n'existait pas trop à l'époque. En fait, c'était, il n'y avait pas ces mélanges, en fait. C'était soit on était rock, soit on faisait de la variété, la grosse variété. Il n'y avait pas ce mélange de trouver son espace. C'est pour ça que je me suis défini bêtement, sans trop savoir de quoi je parlais, comme chanteur pop. Parce que je me disais, voilà, je me mets dans une espèce de zone qui est mon territoire, qui est ma petite île. Mais je me souviens pas, en fait j'ai chanté comme je parlais, ça a été très naturel. Et sur mes premiers enregistrements avec Richard Dumas, c'est pareil, c'est la même voix. Tout est déjà là, j'ai pas véritablement travaillé. J'aimais ce genre de voix d'homme, parce que quand j'écoutais beaucoup Chet Baker, pour moi, on pouvait pas chanter mieux que Chet Baker. C'était extrêmement doux, extrêmement prenant. Et puis tous les chanteurs brésiliens. Et là, donc c'était vraiment ça, ma véritable inspiration vocale. D'ailleurs, quand j'ai signé avec Virgin, puisque j'étais le premier artiste Virgin France, j'avais dit que je voulais faire un disque de bossa, et donc j'étais un peu effondré. Mais je le ferai un jour, ce sera peut-être mon dernier disque. Comme ça, je bouclerai la boucle.
Vous n'avez jamais pris des cours de chant par la suite, Étienne?
Par la suite, parce que j'ai commencé à faire des choses avec de plus en plus d'ambition vocale. Et puis que mes chansons sont beaucoup plus difficiles à chanter qu'elles n'en ont l'air. Comme je force pas, tout le monde pense que je suis en train de fumer des clopes au fond de mon lit et que je chante comme ça. Et quand il s'y colle, il y a une technique en fait. Ça va faire sourire certains, mais...
C'est souvent en mode mineur en plus.
En mode mineur, ouais. C'est le côté oriental, j'imagine. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est ça. Je suis toujours, quand je fais une mélodie, elle est toujours en mineur. Sur des arrangements majeurs. Je crois que c'est ça qui fait l'espèce de frottement qui donne des accidents... intéressant pour moi, pour mon goût à moi.
C'est ce qui a dû toucher Lou Reed, puisque visiblement, quand on l'a interrogé sur votre voix, il aurait répondu, je donne le texte en anglais et puis la traduction, « The texture of his voice is one of the purest, warmest, and has the color of the sunset and champagne. » La texture de sa voix est l'une des plus pures, les plus chaudes. Elle a la couleur d'un coucher de soleil et de champagne. Vous avez votre Nobel, en fait.
Oui. Ah bah oui, vraiment. Vraiment. Plus, John Cale m'avait demandé de chanter avec lui il y a un an, à la Philharmonie, une des chansons du premier album du Velvet. Et là, out of the blue, quelqu'un m'envoie une interview de Lou Reed. Enfin, c'est pas une interview, c'est un mail. Un échange de mail avec une journaliste. Et bien sûr, enfin, c'est l'adoubement. Enfin, c'est tellement extraordinaire de pouvoir avoir surtout existé pour quelqu'un qui compte autant pour moi. Et c'est complètement con, parce qu'en fait, je l'ai rencontré plein de fois, et on m'avait dit qu'il était méchant, donc je voulais vraiment pas l'approcher. Et oui, j'aurais dû lui parler. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais après coup, je me dis, bah voilà, il savait qui j'étais.
Les voyages vont avoir une part importante dans votre œuvre. Vous avez écrit Paris ailleurs à Lisbonne,
oui.
Éden à Londres, et L'invitation à Barcelone, je donne quelques exemples. Oui. Bref, votre maison de disque sait qu'un nouvel album sera forcément synonyme de billet d'avion. Qu'est-ce que vous trouvez en vous déplaçant, Étienne Daho?
Je ne les fais pas payer, hein, parce que je m'installe. Donc, d'abord, si je tombe amoureux, je reste dans la ville. Ça, c'est déjà une réponse. Et puis, en ce qui concerne Londres, ça a toujours été une ville inspirante. L'Angleterre a toujours été très inspirante pour moi. Et c'est très exotique. C'est comme une manière de convoquer les fantômes. Chaque disque à Londres a eu une histoire ou était lié soit à un film, soit à une musique, soit à un personnage. L'avant-dernier album, justement, Les chansons de l'innocence retrouvée, était une manière d'encercler un peu Bacon, Francis Bacon. Et là, le hasard m'a mis en présence de Syd Barrett. Avec le fantôme de Barrett, c'est comme convoquer les morts et d'avoir la sensation de leur présence.
Vous nous avez raconté, Étienne Daho, être venu déjà très jeune en Angleterre. Vous aviez 14 ou 16 ans.
La première fois, j'avais 14 ans, c'était Manchester. J'avais trouvé un travail dans un hôtel. Ma mère était évidemment très inquiète. Mais bon, j'avais été tellement habitué à être tout seul que j'étais très autonome. Je faisais beaucoup, beaucoup de choses tout seul, très jeune âge. Et on me faisait confiance, on avait... Peut-être qu'on pensait que j'étais quelqu'un de responsable. Les pauvres, s'ils avaient su. Et je me suis retrouvé donc à Manchester, dans cet hôtel, et ça a été vraiment une révélation. Puisque comme j'étais le plus jeune, évidemment, j'avais été pris en, un peu sous la protection de celui qui était un peu le chef, qui était un... Voilà, souvent quand on est jeune, quand on est ado, on a des espèces de figures comme ça, de quelqu'un à qui on veut ressembler, qu'on admire et tout ça. Et donc, ce garçon qui devait avoir 18 ans peut-être, il me protégeait. Bon, il m'emmenait dans des endroits. Enfin, j'ai connu mes premières expériences de drogue et tout ça. Donc, je suis rentré. La rentrée suivante, j'avais beaucoup changé. J'avais beaucoup, beaucoup mûri.
Qu'est-ce que ces expériences de drogue, ça ouvre comme perspective, Étienne Daho?
Ce que j'avais pris, c'est ce qu'on appelle une pyramide noire. C'était des acides très, très, très puissants qui duraient des jours et des jours. Et je ne savais pas du tout ce que c'était parce que à l'époque, on spikait les verres. C'est-à-dire qu'on mettait des acides dans les verres de coca. Donc, moi, j'ai demandé un coca. et donc, j'ai commencé à sentir que les choses étaient un peu étranges et... Ça ne s'arrêtait que quand je marchais, en fait. Donc, je crois qu'on a fait le tour de Manchester toute la nuit, voire pendant 2 jours. Et j'ai mis du mal à m'en remettre. C'était vraiment... C'était très, très fort. Les descentes, la montée et la descente, c'était un truc, une bombe dans la tête, quoi. Mais en même temps, les expériences de la drogue, à ce moment-là, avaient à voir aussi avec élargir son champ de conscience, écouter la musique. Il y avait tout l'héritage des années 70 qui était... Bon, il y a eu quelques cas de gens qui sont jamais redescendus, comme Barrett, d'ailleurs. Mais à la base, il y avait une envie d'ouvrir son champ de conscience, d'ouvrir sa sexualité, de s'ouvrir, enfin de s'ouvrir au monde et de faire des expériences et de les partager avec les autres.
Ça a été le cas pour vous déjà, de vous ouvrir à la sexualité à 14 ans ?
Oh oui, bien sûr. Mais on était beaucoup plus précoce dans ces années-là. De toute façon, si on n'y allait pas, on était un peu un bonnet de nuit. Hein, donc, pour être accepté par le groupe, il fallait bien y aller. Fallait pas me pousser non plus, mais...
Vous vous sentez proche des Anglais, Étienne Daho, j'entends par là de leur sens de la réserve aussi, ce qui veut pas dire la timidité, hein. Il suffit de voir leur comportement lors des concerts ou dans les stades de foot.
Oui, les gens ont toujours pensé que j'étais timide, en fait, je suis absolument pas du tout quelqu'un de timide, mais très réservé, c'est le fond de ma nature, et puis... Parce que j'ai un micro sous le nez et que je me ferme un petit peu si j'ai un micro sous le nez ou que j'ai une caméra devant moi. Ça provoque toujours un effet de fermeture.
Il y a une autre ville après Londres qui est très importante pour vous, Étienne Daho. C'est New York. Vous avez eu l'occasion d'y donner un concert avant même l'arrivée du succès puisque je crois que vous y avez joué en 84 avec...
Ah, avec Nina Hagen. Oui, c'était dans... Je ne sais plus à quelle occasion. Je crois que mon disque était sorti aux États-Unis, Le Grand Sommeil en single, et qu'il était pas mal passé au club La Danseteria, qui était un club hyper hype à l'époque, et avait organisé un concert. Et donc j'avais joué avec Nina Hagen, oui. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça.
Et aussi les Comatines.
Oui, aussi. Ouais, ils étaient dans l'histoire. Mais alors, j'habitais chez eux. Mais alors, je ne sais plus vraiment.
Pourquoi New York était important pour vous ? C'était lié à Andy Warhol et la Factory ?
C'était la Factory, bien sûr. Dans tous les endroits, il y a ces fantômes. Voilà, il y a toutes ces réminiscences d'artistes qui m'alimentent toujours. Je veux dire, j'ai une reconnaissance éternelle et ça fait toujours travailler mon imagination, autant d'années après.
À l'époque, vous cherchiez à rencontrer Andy Warhol ?
Non. Non, je l'avais rencontré à Paris, en fait, quand je venais... de Rennes, évidemment, je savais qu'il y avait des endroits mythiques. Donc j'ai essayé de rentrer au Palace, je me suis fait refouler du Palace pendant des années avant que tout d'un coup on m'identifie, que tout d'un coup on me jette un tapis rouge devant les pieds, que je rentre comme ça avec 15 copains derrière qui rentraient collés à moi. Ou au bain-douche aussi, tant que je rentrais pas avec Ali Medeiros. C'était compliqué, enfin j'étais un petit provincial qui essayait de rentrer. Et j'avais essayé de rentrer au 7. Parce qu'on me disait, le 7, c'est extraordinaire. C'était là où il y avait justement David Bowie, Lou Reed, le début de la disco intéressante avec des personnages comme Grace Jones ou Amanda Lear, qui étaient vraiment des créatures. J'ai toujours adoré les créatures, moi. Et je savais que Warhol descendait là-bas. Et un jour, je suis rentré. Et je crois que c'était vers 76, quelque chose comme ça. Donc, normalement, j'étais pas en âge de rentrer. Mais bon, il y avait toujours un videur qui faisait un peu un... une espèce de cocktail avec des petites gueules. Donc à l'époque, peut-être que je devais avoir un look qui permettait d'équilibrer un peu la salle. Et donc j'ai vu Warhol qui m'a fait un dessin au feutre sur mon t-shirt.
New York, Étienne Dao, vous y retournerez à plusieurs reprises, soit pour échapper au végétariat, soit pour y travailler, notamment pour l'album Paris ailleurs, oui. C'était en 91. Qu'est-ce que vous y avez trouvé et que peut-être vous y trouvez encore ?
C'est-à-dire qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup de soul, en fait. Une des musiques que je préfère, en fait, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est la soul, et surtout la pop soul, quoi. J'adore les compositions de Motown. Je voulais travailler avec Smokey Robinson, qui est pour moi aussi quelqu'un de vraiment important. Si on regarde ma collection de disques, j'ai à peu près tous les disques importants de ce label. Et donc, voilà, je considérais que pour faire un album de soul comme celui-là, il fallait aller à New York. Plus à Détroit, parce que c'est fini, mais à New York. Et j'ai auditionné un tas de musiciens avant de trouver le groupe idéal, qui n'étaient pas du tout des musiciens qui jouaient de la soul, mais il y a quand même, parmi les musiciens, les basses-batteries, les couples de basses-batteries, il y a quand même cette culture de la soul. Et donc j'ai trouvé un couple basse-batterie qui était absolument incroyable, et avec qui j'ai fait cet album qui louchait vers la soul, mais en étant quand même, c'était quand même de la soul blanche. C'était blue-eyed soul, quoi. Mais avec des chansons qui n'étaient pas ça du tout, comme Sold Out, par exemple, qui était une balade. Mais il y avait dans la tournerie une chanson très, très difficile à jouer. Et on a passé beaucoup de temps parce qu'on avait fait des maquettes très, très pointues pour ce disque. Il fallait juste reproduire le disque. Et au moment de reproduire le disque, ça a été très compliqué parce qu'on n'arrivait pas à trouver les musiciens qu'il fallait. Et on a mis du temps à les trouver. Quand on les a trouvés, c'était un disque qui était vraiment un grand moment à faire, à enregistrer.
J'en reviens à Londres, Étienne Dao, en 94. Vous vous installez à Londres pour travailler notamment avec le groupe Saint-Étienne. Hein, heureuse coïncidence des noms. D'ailleurs, vous ferez ensemble un court album qui s'appelle Saint-Étienne Dao. Je ne sais pas si tous les auditeurs français ont bien compris, puisque le groupe Saint-Étienne était quasi inconnu en France à ce moment-là. J'ai pu lire que vous aviez eu envie de Londres pour rencontrer ces musiciens, mais aussi parce que vous étiez lassé un peu du métier de chanteur, ou en tout cas du fonctionnement de l'industrie du disque à ce moment-là.
Je ne sais pas ce que j'ai dit à l'époque, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le succès a été très brutal pour moi. Se montrer, s'expliquer, se raconter, expliquer l'inexplicable, j'ai toujours trouvé ça assez dur. Et j'étais devenu une espèce de pin-up boy. Et c'était très compliqué parce que je me sentais pas du tout être cette personne-là. Paris ailleurs a été un album qui a eu un énorme succès. Et tous mes albums ont été comme ça. Il y a eu une espèce de succès grandissant. Et ce mélange de pas dormir, beaucoup d'excès, beaucoup travailler, trop de succès, ma tête a un peu explosé. Et j'ai eu besoin de retrouver ce pourquoi j'avais eu envie de faire de la musique. Et donc j'étais dans un moment en particulier parce que je me disais si je retrouve pas Mythomane, si je trouve pas l'énergie de ça, je ne pourrais pas continuer. Il faudrait que j'arrête. Et donc j'avais besoin de me soigner dans un endroit neutre, enfin neutre d'une forme de neutralité. Et je suis parti à Londres pour recommencer un chapitre, on va dire.
Quasiment dans les mêmes années, Étienne Dao, en 94, vous participez au premier Sid Action. C'était en décembre 94. Vous avez chanté un duo avec Jacques Dutronc. Tous les goûts sont dans ma nature. Mais c'est pas un combat qui était nouveau pour vous, ou un engagement qui était nouveau, puisque déjà en 92, vous aviez œuvré à réunir beaucoup de chanteurs pour un projet qui s'appelait Urgence, dont les profits étaient reversés à la recherche sur le sida. Voilà, les bénéfices étaient versés à l'Institut Pasteur au service du professeur Montagnier. Et la chanson que vous aviez choisie, c'était « Dommage que tu sois mort ». Ce qui dit bien votre humour et celui de Brigitte Fontaine. Oui. Pourtant, le combat était des plus sérieux pour vous, Étienne Dao.
Oui, je voyais des tas de gens succomber autour de moi. J'ai perdu un nombre d'amis absolument incroyable. Je fais partie d'une génération qui s'est beaucoup défoncée, qui a couché dans tous les sens. Donc voilà, ma génération est une cible pour le sida. Et donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu ma chance, en fait. Et donc oui, c'était même pas un combat, c'était une manière de dire il faut que les pouvoirs publics se réveillent. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait, c'était vraiment considéré comme une peste, on n'en parlait pas du tout. Hein. Et donc j'ai initié ce projet qui s'appelait Urgence, enfin c'était pas un titre que j'avais choisi, mais je voulais l'appeler Mon amour baisé. Parce que c'était une chanson de Serge Gainsbourg et j'avais demandé les droits, mais je les ai pas eus. À l'époque, associer une chanson comme ça au sida, c'était pas L'image du sida était atroce, enfin, c'était très très difficile. Et donc, mon amour baiser, ça n'a pas plus existé. Quel dommage, c'était vraiment parfait. Et donc, oui, j'ai choisi cette chanson de Brigitte parce que j'avais pas envie de faire une chanson larmoyante. Je trouve qu'il faut jamais larmoyer, il faut toujours essayer de trouver le moyen de sortir vers le haut. Et l'humour et la tragédie de cette chanson, c'était bien.
Au même moment, va enfler une rumeur à votre sujet, Étienne Dao. Et puis, vous êtes à Londres et pas en France. Et certains soupçonnent que c'est pour y cacher le fait que vous soyez vous-même atteint du sida. Vous serez même, je crois, annoncé mort en 95. Pourquoi avoir, à ce moment-là, refusé de prendre directement la parole comme d'autres stars ont été amenés à le faire à l'époque?
C'est très simple. D'abord, de l'orgueil, je me disais, mais personne ne doit m'obliger à montrer mon certificat de santé. Enfin, je trouvais ça incroyable, quoi. Je trouvais ça insoutenable, quoi, comme idée. Et puis, en plus, je n'avais pas envie, il y avait beaucoup de gens autour de moi, soit séropositifs, soit que j'avais perdu. Je me voyais pas aller à la télé pour dire, moi, j'ai rien, quoi. C'est pas possible. Enfin, de pas être solidaire de cette chose-là, c'était impossible. Bon, à l'époque, je pouvais pas m'imaginer que ça allait durer 10 ans. Parce que ça a été très très long. Ça a vraiment, ça m'a un peu pourri la vie. Mais j'avais fait un choix. Mais bon, je savais pas, dans aucun livre, on apprend comment gérer une rumeur. On sait pas comment elle arrive, on sait pas quand elle va s'arrêter. C'était malveillant, de toute façon. C'était une manière de me dégager. Je suis toujours quelqu'un qui a dit non. Donc, je fais partie du business, en fait. Entre guillemets, en fait, du métier. Mais j'ai toujours été un peu distant par rapport à ça. Et je sais dire merde, je sais dire non. Donc j'étais quelqu'un on avait envie un peu de me dégager. Et ça a failli marcher.
Une de vos réponses s'est passée par les musiques ou la chanson, notamment ce titre, Résurrection.
Ben, je trouvais que c'était une manière humoristique de dire, voilà, je bande, ça va bien, je suis vivant.
Est-ce qu'il s'agissait encore de la même revanche à prendre quand vous avez imposé le fait de chanter Sur mon cou de Jean Genet aux Victoires de la musique?
C'est pas des revanches, c'est que par rapport à moi. Donc, Résurrection, c'était une manière amusante de faire une réponse humoristique qui a pas été du tout comprise. Hein. Vraiment, je crois que ça a empiré les choses. Hein. En plus, j'avais poussé l'humour noir jusqu'à demander à Pierre et Gilles de me photographier en Saint-Étienne lapidé avec Marie-Madeleine qui me tenait à ses bras. Donc j'étais ensanglanté dans l'herbe. Donc ça faisait une image, c'était une manière d'iconiser l'image de ma propre mort, de mettre en scène ma propre mort. Donc c'était drôle, c'est une manière de jouer avec. Mais ça a été très 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 mal interprété. Mais je m'en foutais, franchement, j'étais déjà ailleurs. J'étais en train de faire un album qui était important pour moi. Et après, pour chanter Sur mon cou, oui, parce qu'en fait, Victoire de la musique, on chante toujours son tube et tout ça. Et j'avais imposé de chanter cette chanson de Genet. Donc tout le monde, je me souviens que j'ai revu l'extrait récemment. Et on voit le premier rang, donc il y a plein d'artistes, Gilbert Bécaud et ça. Et tout le monde me regarde avec la bouche ouverte. Il y a une espèce de stupéfaction de m'entendre chanter. Parce que d'abord, j'ai montré autre chose de moi aussi à ce moment-là. J'ai montré que je chantais, alors que j'avais une réputation de qui chante un peu du bout des lèvres. Et surtout, j'étais là, j'avais un pantalon doré, je me souviens. J'avais pris un malin plaisir à avoir une apparence un peu glamour. Enfin, vraiment, j'avais une veste en serpent et je chantais Sur mon cou. C'est parti de mes petites victoires. J'étais tellement content de moi d'avoir pu imposer ça, quoi. C'était comme un jeu, quoi.
Étienne Dao, vous évoquiez la chanson « Mon amour baiser » de Gainsbourg. Ça fait partie des figures qui ont été très importantes pour vous. Et d'ailleurs, Londres a été très important aussi pour lui. Serge Gainsbourg s'intéresse à vous, à vos débuts. Il vous demande même de l'interviewer. Et vous serez lié jusqu'à sa disparition en 1991. Mais vous n'avez jamais cherché à faire de morceaux avec lui?
Non. Non, parce que je voyais tous les gens qui venaient gratter à sa porte. Et je mettais un point d'honneur à ma fierté de jeune homme, à me dire que je serais Dao sans Gainsbourg. Et que j'avais envie d'avoir cette relation vraiment très unique, avec lui tout seul. J'ai vraiment vécu des moments, quoi. C'est très difficile de les expliquer, mais C'est parce que c'était difficile de vivre avec lui à l'extérieur. Dès qu'il y avait une tierce personne, il se protégeait derrière ce personnage de Gainsbourg. Et pour moi, je trouvais ça compliqué. J'aimais pas trop ça, en fait.
La chose la plus difficile, c'est sans doute de durer ou de ne pas se trahir d'une certaine façon. Et certains artistes, dont Elvis, dont Serge Gainsbourg, ont été à la fois magnifiques et leur propre caricature. Comment est-ce que vous aviez compris cette démarche? Comment on se protège de ça, Étienne Dao?
Je le voyais, je l'observais, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis lui m'apprenait beaucoup de choses sur moi aussi. Il me faisait des choses qui me reviennent de temps en temps, qui me faisaient rire. Il me disait, quand tes fans seront trop vieux, faudra en changer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rajeuni son public. Il a essayé de toucher les petits gars, comme il disait. Il était aux anges de jouer au Zénith et d'avoir un public de jeunes gens. Quand il a joué avec Bijou, c'était parce que c'est là que vraiment ça a recommencé. Il a joué au Palace avec Bijou. Et puis ensuite, il a fait son concert reggae. C'était le début, parce qu'il faisait plus de scène du tout. C'était quelqu'un de très reclus par rapport à la scène. Et il était vraiment très heureux, quoi, de ce succès. Et en même temps, c'était des années difficiles de sa vie. Parce que il y avait un succès, une reconnaissance. Et puis en même temps, il vivait un chagrin d'amour très important. Et puis il n'avait pas envie de vieillir. C'était un renoncement.
Changer de public, c'est quelque chose que vous avez eu l'envie de faire un jour, Étienne Dao?
Pas consciemment, mais en fait, probablement que je suis très... j'arrive à capter l'air du temps. Je sens les choses qui arrivent avant qu'elles n'arrivent. J'ai toujours cette espèce de pressentiment des choses. Et ça s'est toujours renouvelé au fur et à mesure des albums. Et plus particulièrement avec l'avant-dernier album, justement, Les Chansons de l'Innocence Retrouvée, où tout d'un coup... il y a eu comme une espèce d'officialisation à mon insu, parce que j'étais à Londres, je faisais l'album, et quand je suis rentré, il y a eu une page dans Le Monde, par exemple, qui disait que quelques artistes de la nouvelle génération, en tout cas, me citaient comme référence, comme artiste référent, et que ma musique était importante pour eux. Et il se trouve que leur musique était aussi importante pour moi, et j'ai ressenti une affinité, et ça m'a fait vraiment plaisir. Et donc voilà, c'est une manière inconsciente de rester connecté avec ce qui se passe, parce que c'est le fond de ma nature, je pense. C'est plus le fond de ma nature qu'une démarche de recherche de public ou de quoi que ce soit. C'est pas trop moi, quoi.
On en restera là pour aujourd'hui, Étienne Dao. Bonsoir, à demain.
À demain. M'avez-vous déjà vu quelque part? Rafraîchissez-moi donc la mémoire. Extasié devant une toile de Vixen à Rome, Londres ou Rennes. Vous m'appeliez Étienne, cherchant le magicien et sa dose. New York, Café Reggio, je suppose. En plein cœur de l'ivresse, au milieu du chaos. Accoudé à un bar, vous m'appeliez. Vous en avez de bonnes à Lisbonne. De Salas à Paname, Amsterdam. Était-ce une quille ou un glaçon, va savoir. Dans le noir, dans le ton, quel que soit l'abandon. Pourvu qu'il soit le bon. Sur d'experts toboggans, vous m'avez vu glisser. Vous y glisser avec délice. Certes.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathieu Conquet avec Étienne Dao.
Je veux goûter à vous.
À voix nue, réalisation Jean-Christophe Francis, prise de son Martin Guénard, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.
Avant que je m'en aille, avant mes funérailles. La vie fait rivaille avant que je m'en aille. Les flèches que Cupid aura décroché, les têtes que des haches dans le dos. Et si j'ai rampé tout en bas, j'ai surfé aussi tout là-haut. Sur des cimes ondulantes, hop, j'enchaîne. Du lever du soleil brûlé jusqu'au matin crème. Se frotter à tout ce qui bouge, de balanceuse en bouge. Non, je n'épargnerai ni moi ni personne. La fièvre n'est pas un don mais un dû. Les provoques de cette foutue ville rendent certains hyper hostiles. Mais moi j'avoue que ça me tente. Yeah. je n'ai pas le rouge au front, et je ne suis pas sur le flanc, et je ne suis pas si mauvais, non, je ne suis pas si maudit.
Les intenses sentent vert, je m'allonge, j'abrège.
Du lever du soleil briller jusqu'au matin grège. Avant que je m'en aille, jouer à qui perd gagne, et de la vie faire ripaille. Avant que je m'en aille,
et ma ligne de fuite s'est brisée pour me mettre à la colle des 22 étés. J'abandonne aujourd'hui mes attractions désastreuses.